Vous écoutez France Culture. Ça rime à quoi ? Ça rime à quoi ? En compagnie ce soir de Stéphane Bataillon, qui vient de publier son premier recueil, Où nos ombres s'épousent. Pourquoi ces feuilles volantes, Stéphane Bataillon, toutes blanches en plus du livre, où sont imprimés vos poèmes ?
C'est les feuilles que j'utilise pour les lectures, en fait. Je préfère avoir des feuilles avec mes poèmes et les lire.
Il faut que ça vole alors, si c'est relié, c'est plus compliqué.
Ça vole, je les laisse tomber par terre durant mes lectures.
C'est un truc de scène comme les comédiens ?
Oui, tout à fait. C'est pour essayer d'être un peu désinhibé, comme c'est les premières lectures. J'essaye de trouver un système. J'ai aidé par une amie qui est metteur en scène, qui m'apprend des petits trucs comme ça.
Pour vous libérer ?
Ouais, pour libérer, et puis pour rentrer un peu dans un autre rapport à l'oral, à la parole.
Et à la scène ?
Et à la scène. C'est limité, c'est pas du tout le but de devenir acteur.
Première lecture et premier recueil aussi, Stéphane Bataillon, puisque les éditions Bruno Doucet viennent de publier votre premier livre de poèmes, « Où nos ombres s'épousent ». Alors est-ce que ce titre, « Où nos ombres s'épousent », sans point d'interrogation final et avec ce « où » avec accent, est-ce qu'il faut entendre cela comme un lieu, le seul lieu où les ombres peuvent se retrouver? C'est le livre où nos ombres s'épousent, c'est le lieu du poème sur la page?
Oui, plus que c'est le mot, c'est-à-dire que c'est dans cet usage des mots, c'est un lieu en mouvement, c'est un lieu qui n'est pas figé, qui n'est pas du vide. Donc il y a le blanc de la page, mais c'est un blanc qui accueille ces mots-là et ces mots-là permettent de faire ressortir un peu la lumière de la page, et puis la page donne aux mots aussi une place.
Il y a trois vers en quatrième de couverture, trois vers très simples qui disent « Je t'avais promis une caresse chaque soir, désormais ce sera un poème ». C'est une façon très pure de dire que ce recueil est dédié à celle que vous aimiez et que vous avez perdue. On se rend compte que la force de la poésie réside dans ces trois vers, parce que ce « désormais » dit tout ce que je suis en train de dire là maintenant, beaucoup plus mal. Comment ce recours à la poésie vous est-il venu ? Est-ce que vous écriviez auparavant, ou est-ce que tous ces mots que l'on va employer pour dire le deuil, la déploration, enfin tout ce que l'on va écrire autour et qui ne dira pas ce qui est dans le livre, comment ça s'est joué pour vous, Stéphane Bataillon ?
Ça vient un peu... J'écrivais un peu avant. Je suis journaliste. Mais c'est une toute autre écriture.
Vous écrivez sur la poésie, entre autres, dans le journal La Croix, sur les poètes.
Voilà, c'est venu après. Au départ, je n'écrivais pas du tout sur la poésie. Je ne lisais pas du tout de poésie. J'ai commencé à écrire, j'ai ouvert un blog, en fait, comme ça, par amusement, il y a quelques années. Puis je me suis dit, on va commencer à écrire des petites choses. Et c'est venu assez naturellement, c'est-à-dire que je m'étais donné une contrainte qui était d'écrire chaque jour quelque chose. Contrainte qui n'avait aucune signification à la base. Quand ma femme était avec moi, c'était pas très régulier. Et je pense que la poésie est venue doucement, sans se nommer, sans même en avoir vraiment conscience. C'est-à-dire que j'ai continué cet exercice que j'ai repris, pas tellement dans un but. Il y avait sûrement une urgence, mais c'était pas du tout pour me dire ça va me permettre de tenir, ça va me permettre de surmonter l'absence. Et c'est un peu la magie de la poésie, c'est qu'elle est venue un peu. C'est pas de l'inspiration, mais disons qu'au fur et à mesure, ça a pris forme. Ça m'a permis de dire les choses, de formuler les choses. et de penser, du fait que c'était « je ne garde rien pour moi, je publie tous mes poèmes sur Internet », donc il y avait quand même la conscience de l'autre, de quelqu'un qui allait lire. Et ça permet de prendre... voilà, j'essaye d'enchanter un peu ces mots-là, qui peuvent être parfois tristes, d'essayer de se dire « bon bah, ces mots, je les écris pour moi, mais je les écris aussi pour d'autres ». Donc de faire doucement attention à ce qu'on écrit.
Et de nommer, il y a ce verbe que vous employez, Stéphane Bataillon, et qui revient dans le recueil, où vous écrivez, bien sûr, l'asphyxie, bien sûr, le pourquoi, crier sans voix au fond de l'ombre, mais quelque chose qui nous dit d'attendre, que nous devrons nommer, quelque chose de simple. Et on sent que vous cheminez pour trouver comment nommer.
Pour trouver, en sachant très bien qu'on n'arrivera jamais à le nommer et que c'est ce qui rend la poésie formidable. On tournera toujours autour de ce mot-là, de cette vérité-là, qui prend des formes, je pense, très différentes selon les gens. Et en même temps, il y a quelque chose comme ça qu'on peut partager ensemble.
Votre femme est juste une initiale. Il y a ce mystère gardé qui fait que l'on nomme, mais que le prénom n'apparaîtra pas en entier.
Tout à fait. Il y a le prénom de ma femme et il y a le prénom de ma compagne actuelle aussi. Et voilà, cet amour-là, cet amour présent, on est de deux manières différentes qui est nommé. Oui, c'est la volonté de faire un livre, de faire un recueil qui est très différent d'écrire des poèmes pour s'adresser aux autres et pour que ça, espérons-le, que ça puisse toucher les autres et que ça puisse aider, que les mots puissent aider comme moi, certains mots m'ont beaucoup aidé. C'est très étonnant d'ailleurs quand on est confronté à un deuil, à l'absence, à la mort ou à une rupture, enfin, de voir que finalement c'est des tout petits mots, des mots du quotidien, des mots qu'on a auprès de nous tous les jours, qui peuvent déclencher, qui n'ont pas de pouvoir magique, mais qui en même temps permettent de redéclencher la flamme, l'envie de vivre. Voilà. Je n'ai pas la douleur, je n'ai pas le besoin, et je n'ai pas l'exil. J'ai juste perdu celle que j'aimais. Bien sûr, l'asphyxie. Bien sûr le pourquoi, crier sans voix au fond de l'ombre, mais quelque chose qui nous dit d'attendre, que nous devrons nommer quelque chose de simple. Un trait, pour regagner d'un geste. Un trait, au plus juste du vide. Quelque chose de brisé, libéré de la ligne, épris d'indépendance. Il a l'air de faire sombre dans ce coin de forêt. À peine une lueur, entre les troncs impatients, semble nous y inviter. Il n'y a pas de nature, pas de vers, pas d'oiseaux. Juste une peur, terrible, qui dresse ses frontières et veut nous y inclure. On n'irait pas normalement, on s'enfuirait à toutes jambes. On courrait assez vite pour que nos larmes sèchent. Mais là, non. Là, on reste. On avance. On s'engouffre. Pour terrasser les cris, pour faire sortir les bêtes. Pour faire sonner le chant. Comme une déflagration qui érige le lieu de nouveaux ralliements. Une clairière, une simple clairière.
Comment ça s'est joué, Stéphane Bataillon, pour vous, cette publication? Vous disiez qu'avant cela, il n'y avait pas de poèmes ou des poèmes par contrainte et selon le temps que la vie vous laissait pour vous y mettre. Là, tout d'un coup, cela s'impose à vous. Et il se trouve qu'un éditeur, Bruno Doucet en l'occurrence, dans ses toutes jeunes éditions Bruno Doucet, vous met en librairie, vous publie parmi ces jeunes plumes. C'est la vocation de la collection, semble-t-il. Comment ça s'est passé, ce virage-là, et qui en même temps semble tout à fait naturel?
Ça a été un long travail, un long parcours, qui a commencé quand Bruno Doucet était encore aux éditions Segers. On s'est rencontrés autour de Guy Vic, qui est un poète que j'aime beaucoup.
Sur qui vous avez écrit également.
Voilà, sur qui j'ai écrit grâce à Bruno, qui m'a permis de faire une petite anthologie de textes chez Segers. Ça a été un long parcours. Ces poèmes étaient pas forcément destiné au départ à être publié en recueil.
Vous les mettiez en ligne, voilà, sur votre site internet au fur et à mesure.
Voilà, et ce travail-là me procurait les retours, les relations avec des lecteurs. Et donc Bruno m'a proposé d'en faire un recueil. Ça a été long et douloureux. Déjà, je pense qu'il faut avoir assez de distance par rapport au poème qu'on a écrit. Enfin, il peut y avoir mille manières de le faire, mais je pense que pour former un tout, avec un début et non pas une fin, mais une ouverture, il fallait déjà que le temps passe un peu et construire un recueil. Alors, c'est mon premier recueil, donc expérience de débutant, mais c'est très très différent que de mettre des poèmes ensemble. Donc c'est beaucoup de travail sur chaque poème, sur leur lien, sur l'espace libre qu'on laisse aussi, entre chaque page, dans le blanc des pages, pour que le lecteur entre dans cet univers. J'écris des poèmes relativement courts. C'est vrai que c'est pas toujours évident de... court et clos. Donc,
ce qui vous rapproche un petit peu de Guy Vic.
Oui,
bien
voilà.
Sûr, beaucoup de gens qui ont écrit sur ce premier livre en parlent, puisque vous aimez beaucoup Guy Vic et qu'il y a dans votre écriture des vers très, très brefs qui retournent à la ligne et qui parfois sonnent comme ça, comme un vers de Guy Vic. Pour autant, le temps a changé. Pour vous, Stéphane Bataillon, entre cette expérience d'Internet, si on imagine Eugène Guy Vic, lui, du côté de la Bretagne et de Carnac, qu'est-ce qui a bougé et qu'est-ce qui est si différent entre aujourd'hui l'expérience qui est la vôtre de celle que Guy Vic pouvait vivre à l'époque, dans ce statut de poète? Parce que c'est assez fou quand même, tout d'un coup, si on vous compare, sans vouloir comparer l'écriture, mais rien que comme deux êtres singuliers qui ont des petites accointances, en même temps, on a l'impression qu'un siècle s'est écoulé.
Alors, moi, j'ai découvert Guy Vic après, j'écrivais déjà ce genre de poème-là, et c'est ce qui m'a touché chez Guy Vic. J'ai senti... une présence proche. On sent un siècle, enfin, moins que ça. Et en même temps, je pense que de manière très différente, ces poèmes-là parlent avec des mots toujours simples, d'expériences fondamentales et de quelque chose. Alors, en prenant appui sur le brin d'herbe, mais... qui vont au-delà de l'observation des choses, qui essayent de leur parler, et de parler même à ce qui est indicible et ce qu'on ne connaît pas encore.
Et comment ça parle à vos lecteurs, puisque vous avez eu la chance d'en avoir d'abord via Internet qui vous répondait spontanément aux poèmes que vous mettiez en ligne, et puis aujourd'hui, avec ce recueil publié, dans une aventure intime et tout à fait personnelle comme celle que vous avez vécue, Stéphane Bataillon, et qui aujourd'hui est sous forme de recueil de poésie offert à tous. Est-ce que c'est différent, cette façon-là, d'abord par Internet plus anonyme et puis là, imprimée?
Elle n'est pas toujours anonyme par Internet, mais ce n'est pas tellement le support qui importe. Là, c'est un recueil qui se tient, qui livre d'un bloc une histoire. Et les premiers retours, j'en ai eu de personnes que je ne connaissais pas. Je suis assez touché et heureux d'avoir le partage. Et les gens m'ont dit que ça les apaisait, dont des gens qui ont vécu des choses difficiles, que ça leur avait donné ce... Voilà, cette petite force venue de l'extérieur en plus qui permet parfois de détourner le regard d'un regard vers l'absence et de le retransformer et de retrouver ce qui vit toujours parce qu'on est là. Et la poésie, c'est peut-être aujourd'hui c'est une de ses fonctions. On dit souvent que la poésie, c'est une manière de résister. C'est de résister au désespoir, c'est de résister à l'abattement, et c'est de se dire avec cette chose primordiale qui est le langage, qu'on a tous, cette chose-là peut nous aider à pas du tout repeindre la vie en rose, mais à se dire on est là, on est vivant, et on a à parler. On a à parler, on a à transmettre, et cette transmission-là, en retour, nous rapporte ce qui tient chaud. Mon grand-père m'a transmis un calme malicieux, celui de ce pays qui fait partie de moi sans autre prétention. Celui que le vent mène, bien au-delà du temps, de l'exil et de l'ombre. Celui que me rappelle ce frisson dans tes yeux, comme si d'ordinaire. Oui, cette nuit encore j'ai écouté ta voix. J'y ai vu ton sourire reflété sur la digue. Il me disait d'aimer, sans attendre que l'aube. Une étendue de sable, la mer au loin, du vent. L'image se brouille. Tu te penches pour ramasser un galet, puis deux. Tu récoltes avec soin ces vieux témoins du monde, comme s'ils pouvaient se fendre et comme si ta chaleur assurait leur survie. Tu me dis, c'est important, les galets. Tu es belle. Je ne sais pas si dans tes yeux, il n'y aura qu'un seul reflet. Je prends le risque de la foule. Ni tourner la page, ni changer de route. Poursuivre. Il n'y a pas du tout une illusion de retrouver la personne perdue. Justement parce qu'il y a eu beaucoup d'amour donné, ce qui a permis aussi de... Mais c'est très, très, très difficile, mais c'est plutôt de se dire... On n'accepte jamais l'absence, la disparition. Mais d'avoir conscience qu'on est là. Et d'être libre par rapport à ça. Et ça fait peur, la liberté. Mais justement, qu'est-ce qu'on a à dire? Qu'est-ce qui n'est pas futile? Quelles sont ces choses très simples? Et ça passe par la poésie, et ça passe encore une fois vraiment par les paroles dites, par les paroles transmises, par ce lien-là, par cette force des mots. Force des mots qui, à force de mots, se perd complètement.
Est-ce que dans les retours que vous avez, Stéphane Bataillon, du coup, cette force-là de l'écriture fait que la parole change dans ce que les autres peuvent vous dire? Je pense à ces vers qui disent « que personne ne vienne effleurer la plaie vive de l'espace ». Et l'on pense à tous ces mots pour apaiser, pour faire du bien, enfin tous ces mots un peu vides, mais qui viennent tout bêtement dans ces moments-là. Est-ce que votre parole à vous et le travail que vous avez fait dessus pour en faire des poèmes et pour faire que ça tienne et que ça puisse résister cela aussi, est-ce que du coup, dans le retour des gens, il y a une parole qui elle aussi essaie de boxer un peu ailleurs? Est-ce que ça a changé les mots que l'on vous donne en retour aussi?
Oui. Et principalement ça dépend beaucoup. J'aime beaucoup Soulages quand il parle de l'espace entre le spectateur et son tableau. Et je pense que ça dépend beaucoup de la réception du texte et du lecteur et de sa vie. Ce qui est très compliqué dans des épreuves comme ça, c'est qu'on est finalement content qu'on nous dise des choses. Et en même temps, on ne peut pas les entendre. Pourtant, avec le temps, des mots qu'on dit, qu'on a entendus plutôt, résonnent d'une expérience qu'on est en train de vivre. Et les personnes qui vivent des expériences douloureuses, oui, me font des retours qui, moi, me transforment ce que j'écris et tout simplement renforcent cette idée qu'on est ensemble. Cette idée d'un collectif qui, aujourd'hui, hélas, j'ai l'impression, pour ma génération, est compliqué, qui passe ni par le politique réellement, ni par une culture de fond qui amènerait un nouveau modèle de société. Et
si ça passait par la poésie, alors,
voilà,
tout d'un coup?
Peut-être.
Pour les années 70.
Peut-être, par ces mots-là qu'on échange et qui résonnent chez tous, qui peuvent recréer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je me dis que la poésie est un bon moyen, très paradoxalement et aussi incongru que cela puisse paraître, pour retrouver quelque chose, sinon à faire, du moins à dire ensemble et à nous porter. Et je pense que ce n'est pas tellement un hasard, c'est des rencontres bien sûr, mais les éditions Bruno Doucet sont dans cette logique-là de promouvoir une poésie accessible, solidaire, qui n'est pas une poésie engagée, mais qui est une poésie humaniste.
Ça sent le chocolat équitable, là.
Ouais, mais justement, moi, je suis assez opposé à cette vision d'une poésie qui aurait un message, qui serait le moyen de dire un idéal, une utopie. C'est pas ma vision. Je crois que la poésie est quelque chose de... le meilleur moyen d'exprimer un intime, une sincérité, et d'ensuite se relier. Ça ne dit pas quoi faire. Ça dit juste qu'on a la force de le faire. Il commence à faire froid. Les jours doivent s'assombrir pour mieux recommencer. On rêve de s'accroupir dans une pièce vide autour d'un thé brûlant. Et qu'une cérémonie entre nos deux regards puisse accueillir l'hiver. L'eau de cette rivière n'essaye même pas de submerger la roche. Elle sait depuis sa source qu'il faut la contourner. Si d'aventure tu trouvais un passage, partagerais-tu ta découverte? Imagine un bateau abandonné au port qui décide une nuit de reprendre la mer. Aidé par une brise, son ancre se libère et sa proue de poussière se pare d'argent et d'or. Heureux, il peut sentir le vent gonfler ses voiles, tutoyer les étoiles, charmer les goélands. Un jour, il reviendra, et avant de s'éteindre, dans un grand feu de joie, il nous racontera.
C'est comme ça que vous avez composé le recueil, Stéphane Bataillon, en mettant tous les poèmes sur des feuilles un peu partout
et... Complètement. C'est comme ça,
je me suis isolé. Alors.
C'est dans l'espace, j'ai mis toutes les feuilles comme ça.
Par terre ?
Par terre. Et puis je me suis amusé à recréer des connexions, à recréer un fil, avec un risque au départ de perdre la sincérité que je voulais transmettre. Et il y a eu ce risque-là, c'est-à-dire qu'à un moment, le recueil, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça a été un travail long et difficile, à force de construire, de transformer le temps, de changer les moments. On perd un peu. On a l'impression de passer dans le domaine de la fiction. Et alors, bizarrement, à la fin, en tout cas, à un moment, il faut s'arrêter. Mais bon, finalement, au contraire, j'ai l'impression, par rapport à ce que je voulais, qu'on retrouve cette sincérité-là. Une fois que les choses, justement, aussi, les liens s'apaisent, c'est un peu comme des... Et que le poème devient recueil, enfin, que les poèmes... Ça. C'était intéressant comme expérience. Je pense qu'il faut le... Intéressant à vivre.
Et vous vous retrouvez là, puisque finalement, vous avez remis les pages comme elles l'étaient au départ, c'est-à-dire parolier du tout.
Voilà. C'est pas grave. J'avais pensé partir avant la fin du jour. Éviter les remous pour m'en aller léger et n'encombrer personne. Mais je dois me résoudre à rattacher la barque aux lourds anneaux du port. Car ce soir, il est tard. Trop pour prendre la mer. Engloutir la matière sans être rassasié. Vouloir que tout ressemble au vide que l'on porte. Que l'on s'y reconnaisse. Les contours d'un ciel persistent depuis des jours. Il y a des étoiles et il y a du bleu. Peut-être que tu es là. Peut-être que tout commence là. Annuler la distance qui séparait des monstres pour mieux les accueillir. Alors, l'ombre retrouve sa place dans l'enclos du poème. Alors, la trêve est possible. Un jardin où chaque pierre aurait sa place, où le chaos saurait se tenir. La plus belle conquête est histoire d'instant, un flagrant délit d'être.
Nos ombres s'épousent, de Stéphane Bataillon, et aux toutes jeunes éditions Bruno Doucet, et sur franceculture.com, où vous pouvez télécharger, réécouter, nous écrire en ligne, ou tout simplement mettre un visage sur le nom d'un poète. La semaine prochaine, notre invitée sera elle aussi de la nouvelle génération poétique, comme on dit des poètes nés dans les années 70. Ce sera Marie-Louise Chapelle pour prononcer son second recueil aux éditions Flammarion. Sari Makwa, Valérie Lavalard, Benjamin Vignal, Anne de Biran, Patrick Molinier, Sophie Nolot. Restez sur France Culture. Dans un instant, c'est Aline Paillé, Jusqu'à la Lune et retour.